Alors, pour compléter ce que vient de dire mon frère, non seulement il y a un message important à transmettre, mais il y a peut-être aussi une méconnaissance des lieux et de la mission à annoncer. Voilà. On entend tous parler de prison. Sait-on seulement ce qu'est la prison ? On entend parler de temps en temps d'aumônerie de la prison. Sait-on ce que c'est que l'aumônerie de la prison ? Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir, jeune homme, parce que j'ai vu un tout petit jeune là-bas derrière dont j'ai reconnu le visage. Je ne sais pas d'où, mais je l'ai reconnu, son visage. Donc, moi, je m'appelle Georges Barros. Donc, je suis fils d'émigrés portugais. Mes parents sont arrivés en France à la fin des années 50. Et je suis donc sénémarnais d'origine. Et drômois par adoption, on va dire. Avec mon épouse Alzira, nous sommes valentinois depuis 2002. Ça commence à faire déjà un petit bout de chemin. Nous sommes parents de deux enfants, Émilie et Gilles, et heureux grands-parents de quatre enfants issus de nos deux enfants et deux autres enfants qui se sont joints à la famille. Donc voilà, je suis le grand-père de six enfants. Je sais que je ne bats pas les records, il y en a ici qui en ont certainement plus. J'ai été ordonné diacre, donc comme le disait mon frère Xavier, le 12 novembre 2016, après 28 ans de mariage. Voilà, le deuxième oui que les hommes diacres donnent dans leur vie, le premier étant à leur épouse, le deuxième étant à l'évêque. Et puis, Pierre-Yves Michel, donc évêque à l'époque, a cru bon me confirmer dans une mission que je possédais déjà depuis le mois d'avril précédent, qui était d'être aumônier de prison. Donc lui, il m'a envoyé. J'y étais en tant qu'aumônier de prison laïque. Lui, il m'y envoie comme diacre aumônier de prison. Voilà. Quand on m'a demandé de présenter ce petit topo, j'ai tout de suite prévenu mon frère Xavier que je ne pouvais pas parler que de l'aumônerie de la prison. Parler que de l'aumônerie de la prison en la dissociant de la prison elle-même n'aurait pas de sens. Donc je vais d'abord commencer par un petit état des lieux des prisons françaises. Ensuite, je vais vous parler de l'aumônerie des prisons. Ensuite, je vais vous parler de ma mission à moi, de ce que je vis en tant qu'aumônier de prison. Et puis, on finira, si le temps nous le permet, par un petit échange. Vous aurez certainement des questions à me poser. Tout ce que je vais vous dire, j'ai quelques chiffres à vous annoncer. Tous les chiffres sont absolument vérifiés. Ils sortent tous de rapports officiel, émis par le ministère de la Justice, par l'État. Donc ce sont des choses qui sont indiscutables. Je me suis permis d'aller les chercher là où elles étaient et de les condenser. Je vais donc commencer. Alors, les prisons françaises sont des lieux de privation de liberté gérés par l'administration pénitentiaire, elle-même rattachée au ministère de la Justice depuis 1911. C'est pas si vieux que ça, somme toute. 1911. Le rôle de la prison en France. D'ailleurs, on va peut-être jouer un petit jeu. Est-ce que quelqu'un voudrait me dire à quoi servent les prisons ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez, Xavier, ouvre la... Pardon ? Faire purger des peines.
Sanctionner.
Mettre à l'écart.
Protéger les victimes.
Réinsérer. Très bien. Eh bien, vous avez répondu à quasiment... vous avez fait le tour des prisons. Sauf que le mot prison, en réalité, c'est un mot générique. C'est un mot qui englobe plusieurs établissements qui sont complètement différents et dont le but, dont la finalité n'est pas toujours la même entre eux. Donc prison, c'est le nom générique, mais en réalité, il y a plusieurs établissements bien différents dedans. Il y en a 187 dans toute la France, et ça fait quelques années que ça dure, et à moins que les ministres trouvent de l'argent sous le sabot d'un cheval, il n'y en aura pas d'autres aussi rapidement. Il y a d'abord les maisons d'arrêt. Vous avez tous et toutes entendu parler des maisons d'arrêt. Alors, qu'est-ce que c'est une maison d'arrêt ? C'est une maison qui est destinée à garder sous main de justice les personnes dont les affaires sont sous instruction en vue d'un jugement. Voilà. Ça, c'est la définition théorique. Elle est indiscutable. Les maisons d'arrêt, on attend d'être jugé. Alors, on y attend de quelques semaines à, des fois, quelques années, quand les affaires sont compliquées, quand la personne prévenue, puisque c'est comme ça qu'on les appelle à ce moment-là, quand la personne prévenue fait appel de son jugement, eh ben, on recommence tout, on retourne à la case départ et on repart. Et ça peut aller jusqu'à, globalement, 5 ans. Donc, il y a 86 maisons d'arrêt dans toute la France. Quand je dis France, je le dis une fois pour toutes les fois dans mon propos, c'est France et territoire d'outre-mer. C'est la France aussi, hein. Donc voilà, quand je dis France, ça englobe tout le monde. Voilà, donc 86 maisons d'arrêt. Et vous verrez tout à l'heure que c'est largement sous-dimensionné. Il y a une autre catégorie d'établissements qu'on appelle les centres de détention. Alors, centre de détention, c'est un endroit où, une fois que la personne a été jugée, donc elle change de statut, elle n'est plus prévenue, mais elle est condamnée, elle part dans un centre de détention purger sa peine. La peine peut aller de 2 ans, globalement, à un certain nombre d'années. Et en parallèle de ces centres de détention, il y a ce qu'on appelle des maisons centrales, ce qu'on appelait avant les quartiers de haute sécurité, qui n'existent plus parce que ça faisait peur, mais l'établissement est resté malgré tout. On appelle ça des maisons centrales. Alors, les maisons centrales sont destinées, comme les centres de détention, à purger la peine qui a été décidée par le tribunal, mais aussi pour mettre à l'écart, et je l'ai entendu par là, pour mettre à l'écart les individus les plus dangereux. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'individus moyennement dangereux, très dangereux ou excessivement dangereux pour leur entourage et pour la France, globalement. Ces gens-là sont dans des centrales. Voilà. Donc, centre de détention et centrale, il y en a 94 dans toute la France. Un autre type d'établissement qu'on appelle aussi prison, mais voilà, il porte un autre nom bien plus précis, ce sont les établissements pour mineurs. On en parle très peu, mais ils existent. Alors, que veut dire mineur ? Mineur, c'est 13-18 ans. Quel âge tu as, mon grand, là, à côté de ta maman ? 10 ans. Tu n'iras pas en établissement pour mineurs. Pas tout de suite. D'ailleurs, je te souhaite de ne jamais, jamais aller nulle part. Donc voilà, les établissements pour mineurs, 13-18 ans. Pourquoi 13 ? Eh bien parce que 13 ans, c'est l'âge seuil prévu par la juridiction des mineurs en France. Voilà, avant 13 ans, on est mineur aussi, mais on n'est pas susceptible d'aller en prison. Et croyez-moi, ça devient un critère pour faire des bêtises. Les plus âgés font faire les bêtises à ceux qui ont moins de 13 ans, parce que les moins de 13 ans risquent peu, et sont tous à la recherche du sonnant trébuchant. Voilà. Des établissements pour mineurs, il y en a 6 en France. Et le fait qu'il y en ait 6 ou que 6 pose un sacré problème, parce que comme il n'y en a pas un par région, eh ben ça impose l'éloignement, des fois de grands éloignements par rapport à la famille. Donc s'il n'y avait pas eu de rupture familiale jusque-là, l'établissement pour mineurs peut créer la rupture familiale, et c'est extrêmement dommage. Donc, 1, 2, 3, 4. Cinquième structure, qui celle-là est très, très, très récente. Je suis sûr que parmi vous, personne n'en a entendu parler, puisqu'elles ont été créées pour la première fois en 2018. Ce sont ce qu'on appelle les SAS, S-A-S, structures d'accompagnement vers la sortie. C'est joli comme... C'est pas mal. Oui, c'est forcément... quelqu'un de très haut placé qui a trouvé ça. Donc, structure d'accompagnement vers la sortie, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des établissements qui accueillent les très courtes peines, cette erreur française de punir pour moins de 2 mois, donc les très courtes peines, ou alors les reliquats de peine. Quelqu'un qui a fait une peine de 3, 4, 5 ans, 6 ans, qui lui reste que 2 mois à faire. Si cette personne a eu un comportement particulièrement, particulièrement sain, qui a toujours été sympathique et obéissant vis-à-vis du personnel, etc., on peut lui accorder cet avantage. C'est d'aller finir ces 2 mois de prison dans une prison qu'on appelle une SAS, et de cette SAS, il sera pas tout à fait... C'est un SAS de sortie, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé SAS. Il ne sera plus tout à fait en prison. Il sera en prison la nuit, en règle générale, de 17h30, 18h à 9h du matin. Par contre, de 9h du matin à 17h30, 18h, il sera libre d'aller chercher un travail, un domicile, d'aller rencontrer sa famille s'il le souhaite, mais avec tout un tas de restrictions, par exemple, interdiction d'aller voir la ou les victimes, interdiction d'aller dans certains endroits quand il y a eu violence familiale, etc., etc. Mais c'est quand même leur donner la possibilité d'avoir un pied dehors, un pied dedans, ce qui va fortement les aider pour le jour où ils seront complètement dehors. Voilà. Et malgré tout ça, il y en a qui comprennent pas et qui, une fois qu'ils ont un pied dehors, pensent que c'est la grande liberté et ça fait des bêtises. Et du coup, ça ne revient pas à la SAS, ça revient en maison d'arrêt ou en centre de détention puisqu'ils n'ont pas compris le principe. Avant-dernière structure qu'on appelle prison, c'est, puisqu'il n'y en a qu'un. Alors, il y a 14 SAS dans toute la France. Il n'y en a même pas un par région. Autant vous dire qu'ils se remplissent à vitesse grand V. Et il y a donc un établissement public de santé nationale pénitentiaire. Rien que le nom déjà fait peur. Établissement public de santé nationale pénitentiaire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un hôpital... C'est une structure hospitalière exclusivement dédiée aux personnes détenues. Elle est à l'intérieur du site de Fresnes, en Île-de-France, et il n'y en a qu'un. Alors, il n'y a qu'un seul hôpital de cette envergure en France, mais chaque région possède son unité médicale susceptible d'accueillir des grands blessés, des personnes qui se sont... qu'on fait des tentatives de suicide graves, etc. Nous, ici, dans notre région, c'est Lyon. Il y en a une à Lyon, qui n'est pas un centre spécialisé, mais qui est une unité détachée de Fresnes. Et je ne voudrais pas oublier, dans toutes ces catégories, des gens qui sont détenus, mais pas en prison. Ce sont ce qu'on appelle les personnes... sous surveillance électronique, ceux qui portent un bracelet à la cheville, d'illustres personnes au plus haut. Bon. Et ces personnes sous bracelet électronique, eh bien, il y en a quand même 16 000, un peu plus de 16 000 en France. 16 000. Je répète bien le chiffre, 16 000. Ce qui veut dire que... Mesdames, Messieurs, Quand vous allez faire vos courses à Intermarché, faut que j'en cite trois, Intermarché, Leclerc ou Auchan, ça y est, j'ai cité les trois, eh bien, vous êtes susceptible de faire toc-toc avec un caddie de quelqu'un qui possède un bracelet, vous ne le savez pas. Et a priori, quand vous le regardez, il n'a pas la tête d'un bagnard, hein, il ne traîne pas un boulet derrière lui, il a juste un boulet sous son pantalon. Voilà. Alors maintenant, je vais rentrer dans les chiffres, parce que là, je vous ai parlé de la structure qu'on appelle prison, qui en fin de compte est un mot qui englobe, comme je vous le disais, tout un tas de structures très différentes. Je vais vous parler des gens qui vivent dedans. Au 1er janvier 2026, donc vous voyez, c'est pour ainsi dire, à l'échelle de l'humanité, c'était il y a quelques minutes, hein. Au 1er janvier 2026, il y a 86 140 détenus en France. Personnes détenues, je déteste dire le mot détenu, ce sont des personnes détenues comme ce sont des personnes libres. Vous, vous êtes des personnes libres, eux, ce sont des personnes détenues. Donc, 86 140 personnes détenues. Au milieu de ces 86 000, il y en a globalement un tout petit peu plus de 4 000, ce sont des mesdames. Eh oui, il n'y a pas que les mecs qui font des bêtises. Et il y a à peu près 895 mineurs. Donc, tout ça fait 86 140 personnes. Alors, vous dire le chiffre de 86 140 personnes tout seul ne veut strictement rien dire. Ça veut dire quoi, 86 140 ? Si je ne vous dis pas combien de places ont été prévues pour ces gens-là. Or, la France, à ce jour, a très exactement, parce que c'est très précis, les chiffres viennent du ministère de la Justice, 63 411 places. On appelle ça des places opérationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est une place opérationnelle ? Dans le langage de nos chers politiciens, une place opérationnelle, c'est un lit, un lavabo pour faire sa toilette et une place dans une armoire pour ranger ses affaires. Ça, c'est une place opérationnelle. Aujourd'hui, la prison, dans sa globalité, a fait quelques progrès. Une place opérationnelle, c'est 9 mètres carrés. Si vous regardez par rapport au WC que vous avez chez vous, on ne doit pas en être loin. 9 mètres carrés dans laquelle il y a un lit, un lavabo, un tout petit espace où il y a une petite plaque de cuisson qui avant était électrique, qui maintenant est vitro-céramique. Donc une plaque de cuisson, une armoire et une télé agrafée au mur et un mini frigo, vous savez les frigos de camping-car, sous la plaque de cuisson. Dans les établissements qui ont, on va dire, un peu moins de 15 ans, 15-18 ans, il y a aussi un petit coin douche, je finis ma phrase, un coin douche WC. Il fait douche ou WC. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà. Eh bien, le ratio entre 86 140 personnes détenues en France et 63 411 places opérationnelles nous ramène à un ratio global de 136%. Pour les personnes qui, comme moi, ont fait peu de mathématiques, ça veut dire que pour 100 places, il y a 136 candidats. Imaginez la vie des 36 qui sont en plus des 100. Alors, ça, c'est le ratio global pour toute la France. Si je le ramène aux maisons d'arrêt, à ces fameux établissements où on arrive tout de suite après la garde à vue, il y a une bêtise qui est faite, la gendarmerie ou la police intervient, arrestation, garde à vue. Pendant la garde à vue, il y a un certain nombre d'heures légales pendant lesquelles le prévenu a le droit de prévenir sa famille, appeler un avocat, celui qu'on appelle habituellement le commis d'office, pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et assez rapidement, Zut, pardon, il me manque un mot. Non, pas le commissaire. Non, non, le procureur de la République sort son petit papier et il dit « ce monsieur-là va en prison le temps qu'on résolve son affaire ». Donc, toutes les personnes qui passent en garde à vue, à moins que ce soit une affaire bénigne, finissent en maison d'arrêt. Il y a une loi en France qui interdit, j'ai bien dit, interdit les chefs d'établissement de refuser des personnes qui viennent des maisons d'arrêt, des gardes à vue, pardon. Donc, autant vous dire que la maison d'arrêt, elle se doit d'être très élastique, parce qu'on ne crée pas autant de places en maison d'arrêt qu'il y a de besoins, mais les besoins augmentent de jour en jour, chaque année un peu plus. Il n'y a, à ce jour, il n'y a qu'un seul chef d'établissement en France, je dis bien un seul, qui a refusé de prendre des nouvelles personnes qui venaient de garde à vue dans sa prison, c'est le directeur de l'établissement de Privas. Il est monté à Paris, il a été voir son ministre et il lui a dit « c'est ou j'arrête de prendre des nouvelles personnes dans ma prison ou je rends mon tablier ». Et comme c'était la première fois que ça arrivait en France, on a écouté sa parole et on lui a dit « vous avez 4 mois de répit et dans 4 mois, il faudra reprendre ». Donc depuis, il y a 2 ou 3 autres établissements en France qui ont fait la même chose. Moi, je rêve, la nuit, des fois, je me réveille en rêvant que tous les chefs d'établissement sont tous montés à Paris et ils ont tous dit au ministre « on arrête de prendre des nouvelles personnes parce que les conditions dans notre établissement ne sont pas dignes ». Mais ce n'est qu'un rêve. Donc, les maisons d'arrêt, elles, sont pleines à 165%. Ce qui veut dire que pour 100 places, ben, il y a 165 personnes qui arrivent de maison de garde à vue. Les autres structures, elles, sont un peu en dessous du 100%, mais pas très loin. Les centres de détention sont à 99%. Les établissements pour mineurs sont mieux lotis, 71%. Et les SAS, alors les SAS, depuis 2018, pour vous dire que c'est monté en flèche, sont déjà à 94% de taux de remplissage. Alors c'est ridicule parce que la plupart des cellules dans la journée sont vides. Ce sont des dortoirs qui nous coûtent une blinde et qui sont vides toute la journée. Voilà, mais c'est comme ça. Alors je vais vous donner 2-3 chiffres pour vous, que vous compreniez. En France, il y a 30 établissements au-delà des 200%. 200%. Il y a la prison de Carcassonne, qui est à 240%. La prison de Saint-Brieuc, 231%. La prison de Limoges, 220%. Et dans notre région, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le Puy-en-Velay, qui est à 213% de taux d'occupation. Parmi les 187 établissements, seuls 93, c'est-à-dire la moitié à peine, seuls 93 ont une densité inférieure à 100%. Alors, dire aussi qu'on est à au-delà de 100%, ça ne veut rien dire si je ne vous explique pas ce qui arrive à ce trop-plein. Eh bien, ce trop-plein, en maison d'arrêt, il est accueilli parce que la loi oblige les chefs d'établissement à accueillir, mais ils sont accueillis dans des conditions totalement indignes. Toutes les cellules de France, des prisons, on va dire, relativement modernes, qui sont à peine du siècle dernier, sont toutes les cellules sont conçues pour une seule personne. La quasi-totalité d'entre elles ont toutes évolué vers 2 personnes. C'est-à-dire que le lit qu'il y avait à l'origine a été remplacé par 2 lits superposés. Donc on met 2 personnes dans une cellule prévue pour une seule. Et quand on ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre un 3e lit, eh ben on met ce qu'on appelle un matelas au sol. Et dans notre région, il y a, j'ai perdu le chiffre, pardon, 6 402 matelas au sol. C'est-à-dire que toutes les nuits, dans toutes les prisons de France, de façon un petit peu inégale, malheureusement, heureusement d'ailleurs, il y a 6400 hommes et quelques femmes qui dorment sur un matelas au sol. Suivant une règle très claire, c'est le dernier arrivant qui dort par terre. Moi, je connais des cellules à Valence où il y a un gamin de 23 ans sur le premier lit, un gamin de 26 ans sur le deuxième lit et un monsieur de 58 ans par terre ou de 60 ans par terre. Il n'y en a pas un des deux qui va se dire « Bon, le vieux, je vais lui donner mon lit parce que voilà, il est plus âgé que moi, il est plus fatigué. » Non, non. Le dernier arrivé prend le matelas au sol, sauf s'il a des moyens de persuasion. Cette hausse des matelas au sol est dramatique parce que rien que sur entre l'année 2024 et l'année 2025, il y a eu une hausse de 19%. C'est-à-dire que si on continue comme ça, bientôt la moitié des cellules françaises auront un matelas au sol. C'est dramatique. Imaginez un lavabo, un écran de télé, un frigo, un petit coin repas. Le coin repas, il doit faire à peu près 60 à 70 cm de large sur la profondeur d'un plan de travail. Et ils sont trois. Ce qui veut dire qu'il y en a forcément deux qui mangent avec le plateau sous les genoux. Quand il y a un programme à la télé, eh ben c'est celui qui, pardon, gueule le plus fort qui regarde son programme à la télé. Quand il y en a un qui fume, soit il est en minorité en termes de muscles et il arrête de fumer, soit il fume et il en fume les deux autres. Donc voilà, juste pour vous dire les conditions de vie. Toutes ces conditions racontées comme ça, eh ben elles placent la France à un des plus mauvais à un des plus mauvais degrés au niveau européen. Merci, c'est le mot place que je voulais dire. À une des plus mauvaises places au niveau européen en termes de détention. On est un pays développé, un pays où il y a des intelligences à tous les coins de rue. On a le service pénitentiaire parmi les plus mauvais d'Europe. Voilà. Non, non, mais j'ai pas dit que c'était le plus mauvais, j'ai dit...
Non, non, c'est pas le seul endroit où on est très mauvais.
Ah bah non, non, non. Mais j'ai été invité pour parler de la prison. Je suis fils d'émigrés, je sais d'où je viens. C'est peut-être pour ça que je fais ce que je fais. Je sais d'où je viens. Là, je vous parle des personnes détenues. Donc voilà, un système carcéral de moins en moins humain et de moins en moins digne. Des cellules surpeuplées un petit peu partout en France. Une nouvelle réglementation qui est sortie en 2024 qui limite les promenades à 2 heures seulement par jour. Avant, c'était 2 fois 2 heures. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Et puis, pour des raisons que je vais vous expliquer un petit peu plus bas, eh ben, ça n'est que 1 fois 2 heures par jour. Ce qui veut dire que les personnes détenues passent 22 heures enfermées dans leurs 9 mètres carrés. Et pour une grande quantité d'entre eux, c'est rien du tout. Parce que sortir en promenade, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques de se faire taper dessus. Prendre des risques de se faire, mettre la main dessus par un caïd qui a besoin de petites mains pour faire tout un tas de choses. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont tellement peur de sortir que du coup ne sortent plus de leur cellule. C'est du 24-24 dans 9 mètres carrés avec un codétenu, voire 2 codétenus. Donc voilà, par exemple, pour passer entre les lits et... moi, j'y vais pratiquement toutes les semaines, donc je sais de quoi je parle. Entre le meuble où il y a le plan de travail et le lit, 2 hommes ne passent pas sans se toucher la bedaine. Donc imaginez l'espace qu'il y a dans le petit couloir qui mène à la fenêtre. Et il y a des endroits comme la prison de Privas où la fenêtre est à 1,90 m du sol. Pour ouvrir. Ils ont une télécommande d'ailleurs, on appelle ça manche à balai ailleurs, pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Voilà. C'est tout ça pour vous dire que les conditions sont largement détériorées. Je continue. La circulation de la drogue est un fléau qui est majeur dans les prisons françaises, car elle tire vers le bas toutes les personnes qui sont en prison, et plus particulièrement les plus fragiles. Attention les oreilles sensibles. La prostitution forcée se voit de plus en plus partout. La prostitution forcée. Quand on sait que les prisons d'hommes n'ont que des hommes et les prisons de femmes n'ont que des femmes, quand je vous dis prostitution forcée, vous imaginez bien où je veux en venir. Une grande quantité d'établissements sont tellement vétustes, tellement insalubres, que ça devient le terrain de jeu de rats, de cafards et de toute autre bestiole, en l'occurrence le plus mal noté en Europe, pas que en France, en Europe, c'est la prison de Fresnes, où il y règne régulièrement, où des gens régulièrement se font agresser par des rats, et où il y a des fois de très graves blessures, parce que tout le monde sait que les rats provoquent des blessures très très graves à guérir. Tout à l'heure, je vous parlais de la prison de Privas. La prison de Privas a ouvert ses portes en 1820. Il y a 65 personnes dedans, il n'y a que 27 cellules. Un peu partout, on relève un manque cruel d'activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, activité ? Eh bien, ça veut dire accès à l'école, accès à la formation. Pour certains, c'est indispensable, parce que quand ils se retrouvent en prison, ben, ils ont zéro bagage. Accès au travail pénitentiaire. Dans beaucoup d'établissements en France, les chefs d'établissement ont des partenariats avec des entreprises, et il y a des petits travaux manuels qui peuvent être faits en prison. Et malheureusement, de moins en moins d'industries donnent leur travail aux prisons. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est un fait. Donc voilà, de moins en moins d'occupations, de moins en moins de profs qui acceptent d'aller donner des cours en prison, de moins en moins de profs de sport qui veulent aller affronter ceux qui savent tout et qui ont déjà tout fait, évidemment. C'est un petit peu la particularité des jeunes en détention. Voilà, tout ça fait que la France manque à tous ses devoirs en termes de réinsertion et de préservation de la récidive. On ne peut pas inciter quelqu'un à devenir meilleur si on le laisse fermé dans sa cellule 22 heures sur 24 à regarder BFM TV. Ça n'est pas possible. Donc, le désespoir entraîne de plus en plus de passages à l'acte. Il y a 10 fois plus de suicides en prison qu'à l'extérieur. 10 fois plus. Le ministère de la Justice a annoncé fin 2024 deux chiffres qui sont alarmants et qui, moi, me font mal quand je les entends. Il meurt une personne par suicide tous les 2 jours. Je ne vous parle pas de tentative de suicide. Je dis, il meurt une personne dans les prisons de France tous les 2 jours, chaque année. Et sur l'ensemble des établissements français, on compte pas moins de 3 tentatives de suicide tous les jours. Donc on est à 900 et quelques tentatives de suicide tous les jours sur toute la prison, sur toute la France. C'est énorme, énorme. Il y a donc un sentiment d'abandon de la société en règle générale. Alors, tout à l'heure, je le disais à une personne, et j'ai pas honte de le répéter, on n'est pas en prison pour rien. Contrairement à ce qu'ils disent, ils ne sont pas tous innocents. S'ils sont en prison, c'est qu'il y a un motif. Mais moi, je suis totalement contre le fait qu'il y ait une double peine. Le tribunal décide d'une peine, elle doit être exécutée, elle doit être comprise, il n'y a pas à discuter. Par contre, il n'est pas utile que le système, que l'encadrement du personnel pénitentiaire vienne ramener sa couche supplémentaire. Il est intolérable que des personnes surveillantes, au prétexte de la couleur du détenu, au prétexte de ce qu'a fait le détenu, normalement ils ne devraient pas le savoir, mais ils le savent tous, ramènent son grain de sel dans la punition. C'est immonde. Je ne le tolère pas et je me bats au quotidien contre ça. L'augmentation des troubles psychiques et des états dépressifs font facilement basculer l'individu dans la violence. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de mettre un déséquilibré en prison que de le mettre dans un établissement spécialisé. Il coûte, comme ça à vue de nez, le quart du prix à la journée. Donc on le met en prison. Il ne comprend pas toujours pourquoi il est en prison, mais il est au milieu de tous les autres qui, eux, vont s'en donner à cœur joie, ils vont abuser de lui, ils vont profiter de sa candeur et vont le rendre encore plus, on va dire, malade qu'il ne l'est. Mais bien entendu, tout ce que je viens de vous citer a un impact direct sur le travail du personnel de détention. Je ne peux pas parler des prisonniers, des personnes détenues, sans avoir une pensée pour le personnel d'encadrement. Je ne parle pas de ceux qui travaillent dans les bureaux, ils commencent à 8 heures, ils finissent à 17 heures, voilà. Qu'il y en ait 300 ou qu'il y en ait 600, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Je parle de ceux qui sont dans les coursives, qui montent les étages 14, 20, 30 fois par jour. Je parle d'eux. Cet impact direct est augmenté par un effectif totalement insuffisant. Il manque cruellement de surveillants de prison. Donc, le manque de personnel surveillant associé à une surpopulation carcérale provoque une surcharge des tâches. Les surveillants doivent courir toute la journée pour aller à droite, à gauche. Les plus blasés, ils courent plus. Donc, ça fait monter la pression. Quand la pression monte, les conditions se dégradent. Quand les conditions se dégradent beaucoup, le personnel s'arrête de travailler. Va voir son médecin. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Donc, l'effectif d'encadrement baisse. Donc, vous avez compris le cercle vicieux. Que faire pour se sortir de ça? Personnellement, je ne sais pas trop. Mais notre présence, elle est très, très utile en prison. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la prison de Valence. C'est celle que je connais le mieux, bien que je connaisse pas mal les 17 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle que je connais le mieux, pour y avoir usé mes semelles depuis bientôt 10 ans, c'est la prison de Valence. J'ai commencé ma mission avenue de Chabeuil, dans la petite prison qui était pas loin du centre-ville, qui elle aussi était extrêmement vétuste. Elle était plus jeune que celle de Privas, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est un bâtiment, c'est un centre pénitentiaire très beau, très, très propre, constitué de deux structures. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les structures. Donc, constitué d'une très grande maison d'arrêt faite de deux bâtiments et une très grande centrale faite de deux bâtiments, elle aussi, et d'une SAS qui a été construite en 2024, je crois. 2023, pardon. Dans la maison d'arrêt, initialement, elle a été prévue pour 344 places, toujours le fameux mot, places opérationnelles. Il y vit, à fin janvier, 499 personnes détenues. Taux d'occupation 145%. Une maison centrale, répartie elle aussi en deux bâtiments distincts, initialement 114 places opérationnelles, 87 détenus aujourd'hui, 76% de taux d'occupation. Ça va, les conditions sont propres, mais elles vont très vite changer parce que le ministre de la Justice a octroyé à la prison de Valence le privilège de recevoir dans le cours de cette année 2026 une partie des narcotrafiquants. Non, ça fait pas mal. Pas la peine de dire « aïe, ça fait pas mal ». Ces narcotrafiquants, ben, ils vont aller où? Comme il n'y a pas moyen de construire d'autres bâtiments, les deux bâtiments actuellement réservés à la centrale, vont avoir, ceux qui sont dans le bâtiment 2, je ne sais pas dans quel ordre ils vont faire, et ça ne me regarde pas, mais ceux qui sont dans un bâtiment le moins nombreux vont aller dans l'autre bâtiment. Ils vont donc surcharger le bâtiment pour libérer environ donc la moitié de 114, pour libérer 50 et quelques places, peut-être 60, pour les narcotrafiquants. Un autre mur sera... Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'enclos de la prison de Valence, là-bas, à la sortie de Valence, pas loin de la Lacra. Actuellement, il y a un mur de 5 mètres qui est, me semble-t-il, très difficile à franchir. 5 mètres plus loin, un grillage de 8 mètres. Et 5 mètres plus loin, un grillage standard, comme vous avez autour de chez vous. Ils vont virer le grillage de 8 mètres et ils vont mettre un deuxième mur de 8 mètres pour le coup. C'est-à-dire qu'il y aura un mur de 8 mètres, un mur de 5 mètres et l'enclos, parce que à ce niveau-là, moi j'appelle ça un enclos, l'enclos réservé aux narcotrafiquants, avec une protection super augmentée. Il va être créé à Valence une unité de police spécialisée rien que pour intervenir à la prison, parce qu'actuellement, quand il y a des projections, quand la police arrive, celui qui a fait la projection, il est déjà au-delà de Malissard ou il est même à Chabeuil. Donc voilà, ça ne sert à rien. Donc là, ils vont créer une unité de police vraiment spécialisée qui sera dans les starting blocks, prêt à bondir au cas où, et peut-être même avec un pied-à-terre à la prison. C'est ce que j'entends dire. Il y a aussi, comme je vous le disais, une SAS, structure d'aide à la sortie, d'accompagnement à la sortie, faite pour 120 personnes. Il y en a 112 aujourd'hui. On n'est pas loin du quota maximum, mais comme je vous disais tout à l'heure, elle est vide la plupart du temps dans la journée. Et rien que pour la prison de Valence, 176 bracelets. Donc là, à coup sûr, quand vous faites vos courses, il y a toutes les chances d'en croiser. Personnellement, j'en connais tellement que oui, il y en a forcément. Voilà. Alors, ça c'est, je vous ai planté le décor de la prison et de comment on y vit. Et vous avez compris que c'est peut-être pas tout à fait comme le disent les médias. Les prisons, ce n'est pas des clubs med, et on en est très, très, très loin. Alors, l'aumônerie de la prison. Qu'est-ce que c'est que l'aumônerie de la prison? L'aumônerie des prisons existe grâce à la loi de 1905, la loi qui sépare les églises de l'État, puisque l'État reconnaît à ce moment-là la liberté de conscience et de culte. Les personnes détenues ont donc le droit d'exercer le culte de leur choix pendant leur détention. Pour que cette liberté soit possible, l'État accorde à des aumôniers agréés l'accès au lieu de détention. Voilà, ça c'est la définition première. La loi de 1905, quand elle a séparé l'Église et l'État, elle s'est rendue compte, elle s'est dit « bon sang, mais c'est bien sûr, on est en train d'enfermer des gens qui ne peuvent pas suivre leur foi, qui ne peuvent pas pratiquer leur foi. Or, c'est une faute, dans les droits de l'homme, c'est écrit, donc il faut revenir un tout petit peu en arrière, et pour revenir en arrière, l'État a dit, ces gens-là auront le droit de poursuivre, de développer leur foi, grâce à des aumôniers qu'on va envoyer en prison, c'est-à-dire des gens envoyés par l'Église qui vont en prison, l'Église dans l'État. Ça va vous aider pour dans quelques minutes. Le cadre. Alors le cadre, il est on ne peut plus simple. L'aumônerie des prisons doit satisfaire aux exigences de la vie religieuse, morale et spirituelle des personnes détenues dans un lieu sous contrôle de l'État. Voilà. Les aumôniers doivent venir juste pour satisfaire aux exigences de la vie religieuse. Point final. L'aumônerie dépend de deux structures très différentes. D'abord attachée au cadre de l'Église de France, parce que nous, quand je dis nous, évidemment je suis dedans, nous sommes tous nommés par un évêque. Moi, comme mon ami Xavier, nous dépendons directement de l'évêque. On n'a pas de compte à rendre à un prêtre ou à quiconque d'autre. On est ce qu'on appelle, c'est écrit dans les textes, nous sommes les collaborateurs de l'évêque. Donc l'évêque nous envoie en mission, en prison. Et comme c'est écrit dans un certain livre, il nous envoie en mission, pas deux par deux, mais en règle générale par équipe. Nous ne faisons pas aumônerie seul, nous faisons aumônerie en équipe. C'est extrêmement important. Mais nous sommes aussi dans un autre cadre, qui est un cadre purement réglementaire d'une administration pénitentiaire. C'est-à-dire que le seul lien qu'il y a entre l'État et l'aumônerie des prisons, c'est une seule personne, c'est l'aumônier national. Quand l'administration pénitentiaire a quelque chose à demander à l'aumônerie, elle doit impérativement passer par l'aumônier national et personne d'autre, qui est responsable de toutes les nominations en France. Ce n'est pas un poste anodin, c'est un poste à très haute responsabilité. Voilà. Les aumôniers, tous les aumôniers de prison sont porteurs. Là, je dis bien les aumôniers, je n'ai pas mis catholique au bout. Hein. Tous les aumôniers de prison sont porteurs d'un agrément octroyé par l'administration pénitentiaire. Et en règle générale, les succursales régionales. Pour nous, c'est la DISP de Lyon, Direction interrégionale des services pénitentiaires. La mission de l'aumônerie. Eh bien, la mission de l'aumônerie consiste à apporter, comme je le disais tout à l'heure, un soutien moral et spirituel, mais exclusivement à ceux qui en font la demande. Ce serait trop facile d'arriver en prison, toc, 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 je m'appelle Georges et je vais te raconter une histoire d'un monsieur qui s'appelle Jésus et en qui je crois profondément. Eh bien, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est formellement interdit, même si d'autres religions le font aussi bien en prison que dehors, nous, ça nous est totalement interdit. Il faut que la personne, en rentrant en prison, ou a posteriori, ça n'a pas d'importance, fasse la demande pour rencontrer un aumônier pour que l'aumônier aille à son devant. Ça, c'est fondamental et c'est très, très... moi, je trouve que c'est... Sans ça, on ne pourrait pas exercer notre mission. Nous sommes donc...
Et là, vous le rencontrez dans un local dédié ou dans
J'y viens. Un... J'y viens. Hein? J'y viens.
Ah, d'accord.
J'y viens. Nous sommes donc signes de la présence d'église auprès des personnes détenues. Le mandat, il est différemment considéré par l'État et par l'Église. L'Église nous envoie en mission pour 3 ans, renouvelable s'il le faut plusieurs fois, après un entretien avec l'évêque. C'est l'évêque qui nous prolonge notre mission en prison. Par contre, du point de vue pénitentiaire, le mandat est limité à 1 fois 6 ans, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, tous les aumôniers de quelque confession qu'ils soient doivent rendre leur tablier, ou ils peuvent le rendre avant s'ils ont atteint l'âge de 75 ans, qui est l'âge de la retraite des prêtres, me semble-t-il. Voilà. Soit on est retraité et on rend notre tablier, soit on est un peu plus jeune et on peut faire 2 fois 6 ans. Moi, je suis J'arrive tout doucement à la fin de ma 9e année. Je vais bientôt entrer dans ma 10e année. Voilà la structure un petit peu de l'aumônerie nationale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un aumônier national élu par le Conseil des évêques de France. Non, c'est pas conseil qu'on dit. La conférence. Élu par la conférence des évêques de France. Eux seuls ont autorité pour nommer un candidat. Donc, un aumônier national, 10 aumôniers régionaux, et en dessous de chaque aumônier régional, il y a, ça dépend des régions, entre 9 et 18 aumôneries locales qui vont donc dans les prisons. Voilà comment c'est un petit peu structuré. Pour être candidat à l'aumônerie nationale, il faut quand même satisfaire à quelques exigences. La première, avoir un équilibre personnel plutôt sain. Avoir connaissance de soi-même, de ses capacités, de ses possibilités et de son équilibre affectif. On peut être vite désarçonné. Je l'ai déjà été plusieurs fois dans mes 10 ans d'aumônerie. On peut être vite désarçonné par la présence de quelqu'un qui est dans une situation, soit qui nous touche particulièrement, soit qui vient nous titiller par rapport à notre histoire, etc. Voilà. La conscience des répercussions que ça peut procurer à notre entourage. Il est évident que quand on décide d'être aumônier de prison, on n'y est pas juste comme ça pour passer son temps, pour y aller en dilettance. On prend la mission, c'est pour y aller le plus souvent possible. Donc, obligatoirement, il faut faire des choix. Donc, obligatoirement, il faut que madame ou monsieur, puisqu'il y a des femmes aumôniers, il faut que madame ou monsieur soient consentants. Il faut que les enfants ne soient pas impactés par le rôle que papa ou maman a d'aller voir des détenus, des criminels, des pédophiles, que sais-je. Une disponibilité plutôt souple. Une exigence de fidélité. Alors, vous me croirez si vous voulez, quand on rencontre des personnes détenues, moi, je vais parler pour moi, c'est bien plus simple, eh bien, il m'arrive de lier amitié avec certains d'entre eux. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, pourquoi ? Parce que je ne vois pas ce qu'ils ont fait. Je vois l'homme. Alors, je dis l'homme parce qu'à Valence, il n'y a que des hommes, mais j'ai déjà eu à rencontrer des femmes à l'ancienne prison. Je ne vois que la personne qui est devant moi. Je ne vois pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ne vient pas brouiller mon regard. Donc je le regarde comme je vous regarde aujourd'hui. Vous êtes des gens sains de corps et d'esprit, avec qui j'ai plaisir de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà, les personnes détenues qui font la demande de la visite d'un aumônier, eh ben j'y vais avec grand plaisir. Et puis, voilà, je fais abstraction de ce qu'ils ont fait. Mais dès la deuxième visite, ils me versent leur seau là devant mes pieds en me disant ce qu'ils ont fait. Et c'est là que je dis, des fois ça désarçonne un petit peu. Surtout depuis que je suis grand-père. Une nécessité absolue de discrétion. Je peux raconter tout ce que je veux de la prison. Je peux raconter tout ce que j'y vois, tout ce que j'y entends, à la seule et unique condition que je ne donne pas ni un prénom, ni un nom. Voilà. Et la capacité de travailler avec les autres, c'est ce que je vous disais dans la Bible. À un moment, Jésus envoie ses disciples par deux. C'est pas pour rien, c'est parce qu'à deux, eh ben, on est plus fort que tout seul. Voilà. Alors l'aumônerie catholique en France, c'est une sacrée équipe. On s'est regroupé en 2024 à Lourdes. Nous étions un petit peu plus de 600 aumôniers. C'était un vrai moment de grâce. Donc en France, il y a 760 aumôniers catholiques, dont 266 femmes, bravo mesdames, et elles ne vont pas que dans les quartiers féminins. Elles vont aussi dans les quartiers hommes. D'ailleurs, c'est très paradoxal, les femmes aumôniers ont droit d'aller dans les quartiers hommes et dans les cellules où il y a des hommes. Les hommes ont le droit d'aller dans les quartiers femmes uniquement dans les activités de groupe. Ils n'ont pas le droit d'aller en cellule où il y a des femmes. Il doit y avoir une raison.
Ah non, mais les hommes, ils ont plus de force que les femmes.
Sortez. Parmi ces 760 aumôniers, il y a 472 laïcs. Ça, c'est magnifique. 472 laïcs envoyés en mission par l'évêque. On y est tous. 76 religieux et religieuses, 136 prêtres, merci mes frères, et 76 diacres. Peut mieux faire, on mettra sur le bulletin de notes. Peut mieux faire. Hein. Alors, il y a l'aumônerie catholique, mais il y a 5 autres aumôneries qui sont très très sous-représentées par rapport à l'aumônerie catholique, tout simplement parce que l'aumônerie catholique a été la première. L'aumônerie protestante, environ 350 aumôniers pour toute la France. L'aumônerie musulmane, environ 270 aumôniers. Et c'est là que ça coince, parce que des personnes qui se disent musulmanes ou d'obédience musulmane, il y en a beaucoup plus que toutes les autres religions réunies, et ils ont à peine un tiers d'aumôniers. C'est dramatique. Dramatique. Tous les jours, je rencontre des personnes qui me disent mais viens nous voir, puisque le nôtre n'a pas le cran de venir nous voir. Il y a 130 aumôniers témoins de Jéhovah. Pour l'administration pénitentiaire, les témoins de Jéhovah sont une religion à part entière. Il y a 50 aumôniers, environ, hein, 50 aumôniers israélites et 50 aumôniers orthodoxes. Et on a fait le tour de toutes les aumôneries. Alors, je vais revenir 2 secondes sur le petit nombre d'aumôniers musulmans. C'est dramatique. Nous, on est bénévoles. Les aumôniers cathos, on est bénévoles. Les aumôniers protestants sont partiellement bénévoles. La grande majorité est bénévole, mais pas tous. Les aumôniers musulmans ont refusé le bénévolat dès le début. Ils ont dit « Ok pour aller en prison, mais à condition que nous soyons salariés ». Donc l'État a dit « Banco pour le salaire, mais vous passez un diplôme, un DU, un degré universitaire de laïcité et citoyenneté ». Alors, pour parler français, ça a foutu le bordel dans toutes les aumôneries de France. Parce que le mot « à cause » n'est pas péjoratif, mais je suis obligé de le dire. À cause des aumôniers musulmans, à qui on a dit « Ok pour un salaire, mais vous passez un DU », tous les aumôniers de France vont être progressivement dans le temps obligés de passer ce foutu DU. Et je vous le dis en toute honnêteté, si ce DU avait été obligatoire en 2014, je n'aurais jamais été aumônier, tout simplement parce qu'à cette époque, j'étais salarié, je faisais 50 heures de travail par semaine, et il était hors de question que je me remette dans les livres pour retourner à l'école, surtout qu'un DU, c'est une centaine d'heures de présence dans une des facs catholiques de France, et d'après ce qu'on m'a dit, au moins 200 ou 300 heures de travail personnel. Donc, en ce qui me concerne, c'était inimaginable. Et du coup, ça l'est pour les aumôniers musulmans. Depuis l'instauration de ce DU, il n'y a pratiquement plus aucune nomination d'aumôniers musulmans. Il y en a chez les protestants, chez les cathos, un peu et beaucoup moins chez les témoins de Jéhovah, israélites et orthodoxes, mais voilà, les musulmans pour qui cette particularité a été créée, eh ben, il y en a de moins en moins. Voilà. Alors dire qu'on est bénévole, c'est l'aumônier est bénévole, pas l'aumônerie. L'État finance à hauteur d'une somme très importante que je ne dirai pas ici, parce que Je ne vous connais pas tous et je ne sais pas où ça va finir. Donc voilà, je peux vous dire que la somme est très, 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 très importante. Mais cette somme, l'État ne peut pas donner de l'argent à l'Église, vous le savez bien, c'est interdit. Donc l'État utilise des aumôniers par-ci, par-là, qu'on a baptisés aumôniers bénévoles rémunérés. Je vois vraiment pas où c'est drôle. Franchement, je vois pas où est-ce que c'est drôle. Mais enfin, bon, voilà. Nous sommes bénévoles, mais rémunérés. Alors, pourquoi bénévoles et pourquoi rémunérés ? Bénévoles parce que la mission, l'aumônier travaille bénévolement. Voilà, je ne touche pas un seul centime de l'État pour la mission que j'ai. Par contre, par ma poche, par mon compte bancaire, celui que je partage avec mon épouse, transite tous les mois une somme d'argent qui m'est attribuée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon avec un bulletin de salaire. Donc cette somme transite par mon compte bancaire et remonte dans les 4-5 jours qui suivent à l'aumônerie nationale. Ah, vous voyez que c'est déjà beaucoup moins drôle. Hein. Et une fois que ça arrive à l'aumônerie nationale, nous sommes environ 160-170 aumôniers rémunérés. Donc une fois que tous ces aumôniers rémunérés ont reçu leur quote-part de cette somme énorme qui nous est donnée. Alors la somme énorme, elle est à l'année, hein. Réduite au mois, elle est un peu moins énorme, mais elle est très conséquente. Et réduite à 187 personnes, elle est encore plus petite. Mais bon, ça fait beaucoup d'argent. Cette somme remonte à l'aumônerie nationale, qui s'en sert pour payer les formations, pour payer les déplacements, parce que quand je disais tout à l'heure, les aumôniers français, ceux du port ou de Saint-Denis à La Réunion, ceux de Tahiti, c'est des aumôniers français. Et quand ils font une formation, c'est à Paris. Donc, il faut leur payer l'avion, il faut leur payer l'hôtel, etc. Donc, l'aumônerie nationale utilise cet argent pour tout ce qui est formation, pour faire redescendre graduellement dans les régions un peu d'argent. Et cet argent sert aux aumôniers régionaux que je suis d'organiser des réunions et des formations avec mes équipes locales, de me payer mes déplacements quand je vais au Puy-en-Velay, à Moulins ou à Rion en Haute-Savoie, et permet de payer les frais kilométriques de tous les aumôniers. Évidemment, la mission, elle est gratuite parce qu'il faut mettre en œuvre pour la réaliser. Et ça, c'est une bonne chose. Mais rien ne reste dans notre poche, sauf cet échange qu'il y a, j'ai fait des kilomètres, on me les rembourse. J'ai acheté un billet de train, on me le rembourse. Ça ne va pas directement dans ma poche, à la différence des aumôniers musulmans et autres qui, eux, ont un salaire. Et comme en règle générale, c'est des mi-temps, voire des tiers-temps, voire des quarts-temps, eh bien, ça fait des tout petits salaires et ils sont bien embêtés pour boucler les fins de mois. Donc, ils s'en servent comme salaire et non pas comme argent utile à la mission. Voilà. Donc, voilà, notre région regroupe 12 départements. C'est énorme. On est une des régions les plus importantes. 12 départements, 17 établissements, un aumônier régional, 75 aumôniers agréés, dont 15 indemnisés, et un aumônier auxiliaire. C'est une autre variante de l'aumônerie. À Valence, plus particulièrement, nous sommes 6 aumôniers, dont 2 en période de stage. Je suis heureux d'en avoir recruté 2 il y a très peu de temps. 4 femmes, 2 hommes, 16 membres associés, c'est-à-dire 16 personnes qui n'ont pas d'agrément, mais qui nous accompagnent dans les activités de groupe. Nous sommes l'aumônerie la plus grosse de notre région. J'en suis très fier. Alors on me demande d'accélérer, j'accélère. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons à Valence ? Eh bien, nous célébrons des messes quand on a la chance d'avoir un prêtre. Ah oui, dans les 16 personnes membres associés. J'ai le grand bonheur d'y compter 3 prêtres. 3 prêtres donnent leur disponibilité au moins une fois, voire deux fois par mois, ce qui est une merveille. Voilà. Nous célébrons donc des messes ou des célébrations de la parole quand on n'a pas la chance d'avoir un prêtre. Nous avons des groupes de parole. Groupes de parole avec un P minuscule, on appellerait ça aussi des groupes d'échange. Voilà. On amène un sujet et on débat autour de ce sujet, suivant les règles du groupe de parole. On dit d'abord un mot, ensuite on explique ce mot, et ensuite on discute autour de ce qui se dit. Pour beaucoup, c'est la première fois que tout le monde se tait quand ils ouvrent la bouche. Je pense à ces jeunes qui sortent de la cité, où c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Là, non. C'est celui qui prend la parole. On se doit de l'écouter, que ça plaise ou non. Après, on peut dire notre avis, mais on ne peut pas dire que ce qu'il a dit est stupide. Voilà. Pour eux, c'est des découvertes. On fait aussi des parcours alpha. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Parcours alpha. On a fait, j'espère qu'on refera bientôt, puisqu'on va être 6 aumôniers, des études bibliques. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Mais le vrai cœur de notre mission, à nous les aumôniers, le vrai cœur, et celui-là je le défendrai jusqu'à la fin, c'est la visite en cellule. Et pour répondre à monsieur, visite en cellule quand exceptionnellement le gars est seul dans sa cellule, ou que l'autre est parti en promenade, ou que un des deux autres est parti en promenade et que l'autre est au médical. Si j'ai la chance de le rencontrer seul, je le rencontre seul. Sinon, si c'est pour parler de la pluie et du beau temps, on peut le faire à 3, ça ne mange pas de pain. Si c'est pour parler de ce qui lui fait mal, de ce qui le ronge au quotidien, je le fais descendre dans ce qu'on appelle des parloirs avocats. Ça se passe au rez-de-chaussée des bâtiments. Ce sont des petits locaux très exigus, une table, deux chaises. Et c'est là que nous rencontrons la personne qui a demandé à nous voir. Voilà. Je vais conclure par ce qui me guide, moi, Georges Barros. Je ne peux pas parler au nom de tous les aumôniers. Je vais parler en mon nom propre. Ce qui me guide au quotidien, ce sont 2 versets de la Bible. Matthieu 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand j'étais un peu plus jeune ou avant d'être aumônier, je trouvais cette phrase merveilleuse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer mon voisin de palier, aimer, des fois avec effort, la plupart des membres de ma famille, c'est facile. C'est facile. Mais aimer ou apporter de l'amour à celui qui a commis l'irréparable, qui a commis ce que vous considérez comme étant le dernier degré de ce qu'un homme peut tolérer. Apporter malgré tout de l'amour à cette personne, je l'ai découvert en prison. Aime ton prochain comme toi-même. Je le vis au quotidien. Je lutte au quotidien pour que la dignité des personnes détenues soit respectée et préservée tout au long de leur détention, j'en suis le garant, et au-delà, ça n'est plus de mon ressort. Je lutte pour que l'ex-personne détenue, au jour de sa mise en liberté, puisse se considérer comme libre malgré le lourd fardeau de la mémoire. Car on n'oublie jamais ce qu'on a fait. On n'oublie jamais ce qu'on a vécu. Après avoir payé la dette qu'il a envers la ou les victimes, les familles des victimes ou la société, qu'il puisse prétendre à un travail qui lui permettra de se procurer un logement et ainsi d'accéder à une vie sociale nouvelle. Le deuxième verset de la Bible qui me guide, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Pardon. Je suis conscient que ce qui me sépare de la plupart des hommes détenus que je rencontre n'est pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette. Sauf que moi, je lutte pour que l'acte, quel qu'il soit, et des fois c'est difficile, ne cache pas celui qui l'a commis. Je ne suis pas meilleur qu'eux, mais simplement, je suis convaincu que j'ai eu plus de chance qu'eux, que j'ai rencontré de bonnes personnes au bon moment, et surtout que j'ai suivi un autre Dieu qu'eux. Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais, si vous le permettez, ça ne va pas prendre longtemps, vous lire deux passages pris à l'intérieur d'un très long communiqué qui a été écrit par Yves Petiton, qui est prêtre à la Mission de France. Hier matin, je lui ai téléphoné pour lui demander la permission. Il m'a demandé la permission de paraphraser, donc je vais paraphraser. La communauté rassemblée n'est pas un groupe de gens bien face à des voleurs, des pédophiles ou des meurtriers extérieurs, comme le prétendait la formule qui faisait porter la responsabilité sur le peuple juif. Non, les disciples ne peuvent pas s'appuyer sur leur mérite, mais ils sont chargés par Jésus-Christ de porter la mémoire du passage que lui seul a effectué. Et le deuxième passage. Oui, publicains et prostituées nous précèdent dans le royaume de Dieu, et les derniers seront les premiers. Sans doute parce qu'ils savent mieux que nous qu'ils ne sont pas bien ajustés à Dieu. Ils ne peuvent pas compter sur leur mérite, seulement sur la miséricorde du Seigneur. Ainsi, l'assemblée en prison est-elle essentielle, car elle est inscrite dans la vie sociale, car elle inscrit dans la vie sociale un germe d'humanité nouvelle. Détenus, hommes ou femmes, libres, sont côte à côte, communis ensemble à l'écoute de la parole et au partage du pain. Il rappelle ainsi à toute l'Église que nul ne mérite l'Eucharistie. Nul ne mérite de recevoir le Seigneur. Nous ne pouvons que dire, dis seulement une parole et je serai guéri. La pratique eucharistique en ce lieu est donc un témoignage pour toute l'Église au-delà du cercle des personnes rassemblées. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si nous avons encore un tout petit peu de temps, mais ce serait dommage de ne pas le faire. Avez-vous des questions ? J'essaierai d'y répondre rapidement.
Est-ce que vous avez des liens avec les décideurs de prison ?
Aucun. Tout simplement parce que la mission des visiteurs de prison est une mission strictement personnelle. Ils dépendent d'un organisme qui dépend de l'administration pénitentiaire. Ils y vont avec leur propre casquette personnelle. Ils ne sont pas une mission d'église, donc nous ne pouvons pas parler de la même chose. Et il existe une petite rivalité entre nous, tout simplement parce que nous, on a la clé des cellules. Je vais toquer à la porte de ceux qui m'ont demandé de venir. J'ai la possibilité d'ouvrir leurs cellules, de rentrer chez eux, alors que les visiteurs de prison accueillent les personnes qui en font la demande dans des locaux spécialement étudiés pour ça. Une autre question ?
Quand tu puisse célébrer la messe, c'est limité le nombre de détenus?
Alors, c'est très variable dans toute la France. C'est exclusivement lié aux consignes de sécurité de l'établissement. Nous, ici à Valence, on a un lieu de culte, on va dire, polyculturel. Les musulmans, ils font leur prière du vendredi. Les protestants, ils font leur culte le dimanche matin. Nous, on y fait notre messe ou notre célébration de la parole du dimanche matin. On est limité à 45 personnes maximum. Ça, c'est la sécurité. En réalité, je n'ai pas le droit de fournir à la détention des listes supérieures à 45 personnes, mais en réalité, on n'en a jamais plus de 30. On frôle les 28, 30 dans les grands événements. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y a des établissements où c'est 15, il y a des établissements où c'est 60. L'évêque nous accorde cette grande joie de venir deux fois par an, Pâques et Noël. Cette année, il est venu, accrochez-vous, le 24 au matin. Habituellement, c'est plus le 25, 26, 27. Là, cette année, le 24. Et il vient toujours à la suite de Pâques, en règle générale, le premier dimanche après Pâques.
Mais est-ce que, justement, cette limitation à 45 fait que les gens vont s'inscrire au préalable auprès de vous ?
Alors, depuis que je suis aumônier dans cette prison, c'est sur moi que c'est tombé, je n'ai pas fait exprès, c'est moi qui ai la gestion de la liste. J'ai actuellement 87 noms, à ce matin, hein, j'avais le nez dedans, j'ai 87 noms sur la liste. Dans les 87 noms, il y a des gens qui veulent venir au groupe de parole du vendredi et au culte le dimanche. Il y en a, ils veulent venir que au culte, il y en a, ils veulent venir que au groupe de parole du vendredi, et il y en a qui veulent venir nulle part, mais qui veulent des visites. Donc, 87 noms. De ces 87 noms, j'extrais tous ceux qui demandent à aller à la messe ou au culte. De ces noms-là, je prends parmi les plus anciens et les plus réguliers 45 noms. Quand on est absent 5 fois de suite, alors 5 fois de suite, ça peut paraître pas beaucoup, mais nous alternons un dimanche catho, un dimanche protestant. Donc 5 absences d'affilée, ça représente plusieurs mois. Si pendant plusieurs mois, le gars, il n'est pas venu, c'est qu'il n'est pas intéressé, et c'est son droit le plus légitime. On le sort de la liste, on continue à aller le visiter si c'est son choix, mais on remplace son nom par un autre qui était, comme on dit, sur liste d'attente.
Merci.
Bien. Merci pour votre attention. Ne prenez pas de travers tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que je suis aux côtés des personnes détenues que je suis du côté des personnes détenues. Il y a des actes ont été commis que moi je considère totalement inacceptables. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'homme mérite plus que la faute qu'il a commise. Donc je continue à les voir. Sauf qu'il y a, au mois de juillet de l'année dernière, j'ai été tellement désarçonné par un vidage d'estomac qui m'a obligé à m'arrêter pendant à peu près un mois et demi. Pendant un mois et demi, j'ai été infoutu capable de remettre les pieds en prison, tellement le récit que j'ai pris dans la face m'a choqué. Voilà. Donc, je me considère privilégié par rapport à d'autres aumôniers. J'ai bientôt 10 ans d'expérience. J'ai côtoyé toutes les couleurs, tous les actes commis depuis la récidive d'excès de vitesse jusqu'au meurtre prémédité, jusqu'au meurtre avec acte de barbarie. Voilà, j'ai côtoyé des hommes qui ont fait toutes ces choses-là. Et là, au mois de juillet dernier, j'ai rencontré un monsieur qui n'a jamais touché à personne, mais qui a détruit quelqu'un. Et la conclusion de son récit m'a foutu par terre. J'ai été voir notre père évêque et je lui ai dit, père évêque, il faut que vous acceptiez que je me mette au repos pendant un petit moment, parce que voilà ce que j'ai entendu et je ne suis pas capable de le porter sur mes épaules. Et il m'a dit, écoute Georges, tu fais comme tu dois faire, je te fais confiance. Et je dois ajouter une petite chose, nous voyons une psychologue toutes les 6 semaines. C'est-à-dire, toutes les 6 semaines, nous rencontrons une professionnelle, comme disait Coluche, une professionnelle des boyaux de la tête, qui nous aide à défaire les nœuds. Alors, elle n'a pas de petite boîte de comprimés pour nous retirer ce qui nous fait mal, mais avec son professionnalisme, avec son recul par rapport à ce que nous lui racontons, elle nous donne des conseils, elle nous donne des aides pour arriver à supporter ce que nous entendons. Et Dieu sait si souvent ce que nous entendons est inaudible. Parce que nous, on est tenus par notre mission, accompagner la personne détenue qui en fait la demande dans sa vie spirituelle. Mais assez rapidement, je dirais même dans 99% des cas, on devient le confident à qui on va dire la vérité. Pas un bout de la vérité, c'est la vérité. Il nous arrive souvent d'être plus informés que l'avocat proprement dit. Et ce n'est pas toujours facile à porter. Voilà. Nous n'avons le droit d'intervenir que en cas de légitime défense. Je m'explique. Je vais voir une personne détenue qui est à bout de nerfs et qui me dit « ça fait une semaine que j'ai pas une cigarette alors que j'en fume 15 ou 20 par jour, j'en ai pas une, le prochain surveillant qui m'ouvre la porte, je le défonce ». Moi, j'ai le devoir d'aller voir le chef de bâtiment et le chef de détention et lui dire « à la cellule numéro tant, il y a danger ». Alors, il n'est pas rare que les surveillants se fassent asperger d'huile bouillante, d'eau bouillante, d'ustensiles de cuisine. Donc voilà, il est de mon devoir d'homme, de citoyen, de dire « à tel endroit, il y a risque ». Faites gaffe quand vous y rentrez, n'y rentrez pas seul, rentrez-y à trois, comme le veut la loi. Voilà, il y a danger. Je me dois d'aller voir le chef d'établissement quand un gars me dit « Georges, j'ai fait le tour, il veut pas de moi ». Donc quand cette phrase, je l'entends très régulièrement, « il veut pas de moi », on parle de celui qui est là-haut. Il veut pas de moi, mais je vais lui forcer la main. Donc en tant que citoyen, je me dois d'aller dire à tel endroit, dans telle cellule, il y a quelqu'un qu'il faut mettre sur surveillance, sinon il va passer à l'acte. C'est rare, les mots comme ça dans le vide, c'est assez rare. Et à côté de ça, si on me dit, écoute, officiellement, tout le monde croit que je suis ici parce que j'ai cassé la gueule à un flic, alors qu'en vérité, voilà pourquoi je suis là, ça je le garde pour moi. Et j'ai aucun... Enfin, il m'est interdit de le dire à qui que ce soit. À qui que ce soit. Et celui dont je parlais tout à l'heure, qui m'a complètement désarçonné pour la première fois de ma vie d'aumônier, il était là pour avoir cassé la gueule à un flic. Or, pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'était sa protection vis-à-vis de tout ce qui l'entourait. Parce que quand on casse la gueule à un flic, on est plutôt... Alors que s'il avait dit la vérité, il serait peut-être plus là aujourd'hui pour en parler. Voilà. Merci. Si j'arrête. Non, non, mais j'ai... Contrairement à d'autres, j'ai une épouse.
D'accord, oui, on comprend très bien.
Non, non, je... Parfait. Ça,